Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour. L'écrivain Milan Kundera devient citoyen tchèque 45 ans après son exil. Prague va signer un accord de partenariat avec Taipei, la capitale taïwanaise. Et puis du sport avec des tractations entre le club français OGC Nice et le Slavia Prague pour le gardien de but Andrei Kolář. 40 ans après avoir été déchu de la nationalité tchécoslovaque, l'écrivain français d'origine tchèque Milan Kundera est devenu citoyen de la République tchèque. L'ambassadeur tchèque à Paris indique au quotidien Pravo qu'une petite cérémonie a été organisée pour l'occasion le 28 novembre dans l'appartement parisien de l'auteur âgé de 90 ans. L'ambassadeur tchèque Petr Drulák, que vous entendrez dans un instant à ce sujet dans la suite du programme en français de Radio Prague International. La capitale tchèque va signer dans les semaines à venir un accord de partenariat avec Taipei, la capitale taïwanaise. Cet accord doit entériner une collaboration dans les domaines économiques, commerciaux et culturels entre les deux villes. L'accord en tant que tel doit encore être approuvé par les élus de la capitale tchèque. Selon le maire de Prague, Zdeněk Hřib, la signature devrait avoir lieu en janvier prochain lors de la visite de son homologue taïwanais Ko Wen-je en octobre dernier. Rappelons que la ville de Pékin avait rompu l'accord de partenariat existant avec la ville de Prague. Pékin est particulièrement critique de ce qu'elle considère comme une ingérence grossière des élus de la ville de Prague dans les affaires de la Chine et le non-respect de la politique de la Chine unique. Suite de ces informations, avec la République tchèque déboutée par la Cour de justice de l'Union européenne, la plainte déposée par Prague contre la directive européenne sur le port d'armes a effectivement été rejetée cette semaine par la Cour de justice. D'après le correspondant de la radio publique tchèque à Bruxelles, les amendements à la directive de 1991, adoptée le 14 mars par le Parlement européen, inclut des règles plus strictes sur les armes désactivées et des tests psychologiques pour les acheteurs potentiels. Le Parlement tchèque avait voté en 2017 un amendement constitutionnel prévoyant que les détenteurs légaux d'armes à feu puissent s'en servir dans le cas d'une attaque menaçant la souveraineté de la Tchéquie et notamment en cas d'attaque terroriste. Un mot d'économie pour vous dire que l'investisseur Martin Hulchak a présenté ce mardi le nom du groupe composé par plusieurs entreprises du secteur industriel de la région d'Ostrava. Vitkovice, du nom allemand de la commune de Vitkovice, près d'Ostrava, emploie en tout 1400 personnes. Il est composé par une petite dizaine de sociétés du génie mécanique. Du sport avec du foot et le Slavia Prague qui indique ne pas avoir encore reçu d'offre officielle de la part du club français OGC Nice pour son gardien de but Andrei Kolář. Mais le dirigeant du club de la capitale tchèque a indiqué qu'une offre avait été communiquée à titre indicatif via une agence et qu'elle serait à hauteur de 8 millions d'euros. Jaroslav Tvrdík, le président du Slavia, précise sur Twitter que « nous voulons au minimum le double ». Fin de citation. Les dernières prestations en Ligue des champions d'Andrei Kolář ont été très remarquées. Il gardait aussi les cages de la sélection tchèque lors de la dernière défaite de la Tchéquie en Bulgarie. Un mot sur la météo, avec un ciel plutôt gris en ce moment et des températures en baisse autour de 5 degrés pour les maximales à Prague. Dans une poignée de secondes, c'est la suite du programme en français de Radio Prague International avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International, une actualité dont Alexis Rosenzweig vient de nous résumer les principaux titres et au sommaire de laquelle figure tout d'abord Milan Kundera, un Milan Kundera qui, 40 ans après avoir été déchu de la nationalité tchécoslovaque, obtient cette fois la citoyenneté tchèque. Nous entendrons l'ambassadeur tchèque en France, Petr Drulák, qui lui a remis en personne le certificat. Nous parlerons aussi politique avec l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans qui reste une priorité pour le groupe de Visegrad, un groupe toutefois déçu par la lenteur des négociations. Et puis enfin, nous évoquerons une découverte dans une maison de Dijon, en France donc. Une œuvre médiévale de Bohème a été vendue, tenez-vous bien, pour 5 millions d'euros. Très bonne écoute. C'est l'info de la journée et de ce début de semaine. Déchu de la nationalité tchécoslovaque par les autorités communistes il y a 40 ans et naturalisé français en 1981, l'écrivain Milan Kundera s'est vu attribuer sa citoyenneté tchèque le 28 novembre dernier à Paris. Un geste symbolique très important. Selon l'ambassadeur tchèque en France, Petr Drulák, qui a remis en personne le certificat au géant de la littérature européenne, âgé de 90 ans. Petr Drulák nous parle de l'ambiance de cette petite cérémonie. Il répondait aux questions de Magdalena Rosinkova.
Peut-être cérémonie, c'est un peu exagéré parce que j'ai eu le privilège de voir les époux Kundera dans leur appartement. Et à cette occasion, j'ai remis la confirmation de la nationalité tchèque à M. Kundera. Donc, on en a parlé, mais on n'a pas vraiment organisé une cérémonie formelle.
Et quelle était sa réaction?
Il était très content. Il a reçu avec un grand plaisir. Donc, il a exprimé sa joie.
On le sait bien, les relations qu'entretient Milan Kundera avec son pays d'origine sont compliquées depuis longtemps. Quel est son rapport actuellement à la République tchèque? Est-ce qu'il s'intéresse à ce qui se passe en Tchéquie?
Oui, vous avez raison que c'est une relation compliquée, mais néanmoins, Milan Kundera est quelqu'un qui est beaucoup attaché à son pays d'origine. Donc, que quand vous parlez avec lui, vous découvrez immédiatement que ses racines tchèques sont très profondes. Et il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Tchéquie. Donc, pour moi, c'était aussi une des raisons que quand j'en ai parlé avec lui, que donc je lui ai dit il n'y a aucune raison pour ne pas avoir la nationalité tchèque parce que vous vous ressentez comme un tchèque et vous vous intéressez à la Tchéquie. Elle est tchèque. S'intéresse beaucoup à vous.
Pourquoi ce rapprochement maintenant? La restauration de la citoyenneté de Milan Kundera a été initiée par le Premier ministre tchèque lorsqu'il a visité Paris il y a un peu plus d'un an. Il a rencontré Milan Kundera et il a évoqué pour la première fois cette idée de restituer à l'écrivain sa citoyenneté tchèque.
Oui, mais vous savez, donc c'était pour la première fois au niveau politique. Mais évidemment, cette question était discutée déjà avant et après. Mais c'était vraiment un geste très important de la part du Premier ministre Babiš quand il a demandé, M. Kundera, pourquoi le plus grand écrivain tchèque n'a-t-il pas la nationalité tchèque. Donc c'était un geste important. C'est peut-être la première fois que cette offre est venue du niveau de la politique d'une telle hauteur, c'est vrai. Mais aussi, je pense, les Kundera se rendent compte qu'ils ont beaucoup d'amis, beaucoup d'admirateurs en Tchéquie, et que la période des attaques contre eux, qui étaient souvent très méchants, que c'est déjà fini. Donc, je pense aujourd'hui la relation entre les Kundera et, disons, la société tchèque s'est beaucoup améliorée. Et cet attachement de Kundera à la Tchéquie a pu trouver son exprimation dans cet acte de la nationalité tchèque.
Vous avez d'ailleurs dit à la presse française que vous avez présenté les excuses de la Tchéquie pour les attaques dont l'écrivain a été la cible pendant plusieurs années.
Oui, je l'ai fait parce que j'ai toujours beaucoup regretté qu'il y a des attaques qui vraiment dépassent la critique légitime, parce que on peut toujours critiquer l'œuvre, on peut critiquer l'auteur, c'est normal, mais il y avait des attaques personnelles qui était très méchante et qui me toujours faisait très triste.
L'épouse de Milan Kundera, Věra Kunderová, a récemment accordé une interview à la presse tchèque. où elle faisait part de ses regrets par rapport à la migration. Elle a dit aussi que son mari et elle, ils étaient très, de plus en plus attachés à leur identité tchèque. Est-ce que vous en avez parlé avec les époux Kundera?
Oui, je ne peux que confirmer ce que Vera Kundera a dit au magasin Host. L'émigration est toujours une situation difficile, même si les Kundera ont été très bien accueillis ici en France, ils ont aussi la nationalité française. Kundera est considéré aussi comme un grand écrivain de la langue française, mais quand même, c'est l'émigration, c'est une condition qui n'est pas facile.
Est-ce que le fait que Milan Kundera donc vient d'obtenir la citoyenneté tchèque va avoir des conséquences sur les traductions de ses romans en tchèque?
Je ne sais pas. Et honnêtement, c'est une des choses que je reproche un peu à Milan Kundera, qu'il était toujours tellement restrictif quand à la traduction de ces livres qui ont été écrits en français dans la langue tchèque. J'espère qu'il va de nouveau réfléchir et qu'on va avoir la possibilité de lire toute son œuvre en tchèque.
Voilà, c'était donc l'ambassadeur de République tchèque à Paris, Petr Drulák, qui répondait aux questions de Magdalena Rozinková. On passe à la politique et à la politique européenne. Élargir l'Union européenne aux pays des Balkans occidentaux est dans l'intérêt de tous, et ce malgré la décision prise récemment par les 27 de reporter à plus tard l'ouverture de négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Réunis à Prague lundi, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays du groupe de Visegrad se sont une nouvelle fois entendus sur ce point. Tomáš Petříček, le chef de la diplomatie tchèque, a rappelé que ce groupe de Visegrad, qui réunit, rappelons-le, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, souhaitait une poursuite des négociations avec les différents pays concernés. Les pays du V4, comprenant le groupe de Visegrad et des Balkans, entretiennent historiquement des relations fortes, mais ces relations renforcent les inquiétudes dans les capitales d'Europe de l'Ouest que laisse entrevoir la perspective d'un renforcement du bloc des pays au comportement subversif, comprenant les pays d'Europe centrale, et ce dans un club fondé à l'origine par les démocraties libérales occidentales. Le veto mis par la France à l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Albanie et la Macédoine du Nord n'est pas passé inaperçu à Prague en octobre dernier. La décision prise lors du sommet européen de reporter à plus tard les discussions avec Tirana et Skopje en vue d'un nouvel élargissement, un élargissement qui divise toujours les 27, avait même été accueilli avec une certaine incompréhension dans les pays du groupe de Visegrad. Ceux-ci sont favorables au principe d'une intégration des six pays des Balkans occidentaux, outre l'Albanie et la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo. Réunis à Prague en septembre dernier avec leurs homologues des Balkans, les premiers ministres hongrois, polonais, tchèques et slovaques ont d'ailleurs adopté une déclaration réitérant ce souhait de voir disparaître ce que la télévision tchèque avait alors qualifié, je cite, de « trou sur la carte de l'Union européenne ». Fin de citation. Lundi, lors de la réunion avec ses homologues, le ministre des Affaires étrangères hongrois a été le plus loquace, et ce, alors que c'est un Hongrois, Oliver Várhelyi, qui est désormais chargé de la problématique de l'élargissement au sein de la nouvelle Commission européenne. Invité de la télévision tchèque, dans la soirée, le ministre Peter Szijjártó a rappelé pourquoi, aux yeux de Budapest, l'ouverture du Club des 27 à ses six nouveaux membres, qui n'en sont toutefois pas tous au même stade d'avancement dans leur rapprochement avec l'Union européenne, est considérée comme une bonne chose.
Mais je pense que c'est clairement dans l'intérêt de l'Union européenne, que ce soit d'un point de vue politique, économique, stratégique ou sécuritaire. Les Britanniques vont quitter l'Union européenne et c'est la première fois de son histoire que celle-ci verra le nombre de ses États membres se réduire. Je ne pense pas que cela donne une bonne image de l'Union. Il serait préférable de présenter les succès. Et tout élargissement doit être considéré comme tel. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Si nous parvenons à poursuivre le processus d'intégration, plus vite que ce qui se passe actuellement, nous enverrons des ondes positives sur l'état de l'Union.
En octobre dernier, le quotidien tchèque Hospodářské noviny avait d'ailleurs noté, je cite, que le jeu d'Emmanuel Macron faisait les affaires d'abord de la Russie, une Russie qui profite dans les Balkans du manque de cohésion de l'Europe. Fin de citation. Une Russie qui se sert également de certains responsables politiques du groupe de Visegrad pour instrumentaliser sa politique anti-européenne. Lundi, les chefs de la diplomatie du groupe de Visegrad, un groupe dont Prague assure la présidence tournante encore jusqu'à la fin de cette année, ont donc regretté que trop peu d'avancées aient été enregistrées sous Jean-Claude Juncker, dont le mandat de président de la Commission européenne s'est achevé la semaine dernière. Par ailleurs, tous ont également noté que depuis juillet dernier, la présidence finlandaise en cours de l'Union européenne était la première sous laquelle aucun nouveau chapitre de négociation n'avait été ouvert avec les pays candidats, et ce alors que le Monténégro et la Serbie disposent du statut officiel de candidat depuis déjà respectivement 2010 et 2011. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague International. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la seconde moitié de ce programme. Une seconde moitié dans laquelle il va être question d'un tableau médiéval rarissime attribué au maître de Vichy Brod et qui a été vendu le 30 novembre dernier pour une somme de 5 millions d'euros. C'est le prestigieux Metropolitan Museum of Art qui en est désormais l'heureux propriétaire, damant le pion aux autres potentiels acheteurs dans la Galerie nationale de Prague. Daté aux alentours de 1350, ce petit tableau représentant une Vierge à l'enfant en trône est né dans le contexte très particulier du règne du roi de Bohême et futur empereur du Saint-Empire, connu pour son mécénat et pour avoir fait venir les plus grands artistes de l'époque en Bohême. Pour évoquer ce tableau, Anna Kubishta a contacté Stéphane Pinta, du cabinet d'experts en art Turquin à Dijon.
Panorama.
Panorama.
Alors c'est un tableau qui est peint sur un panneau de bois fruitier, probablement un merisier, et qui est recouvert sur chaque face d'une petite toile de lin très fine, enduite. La toile du rosaire est peinte à l'imitation du marbre, ou de la reliure, plutôt du marbre je pense, qui a d'une partie a contribué à protéger le tableau, puisque le tableau est en fait formidablement plan, il a absolument pas bougé, il est dans un état de conservation absolument remarquable. La petite toile du dos montre qu'il y a des petits accidents, la matière s'est un petit peu désolidarisée, mais sur la face, le tableau est en très très bon état, avec juste cette question qui a été en partie résolue, qui est ce que recouvre ce grand repeint noir qui cerne le sujet de la Vierge à l'enfant, qui est le sujet principal du tableau. La radio montre qu'en dessous, le tableau n'a pas été repeint parce qu'il était abîmé ou parce qu'il était usé, simplement il est repeint pour recentrer le sujet et pour faire oublier tout ce que l'on voit maintenant à la radio et qui va être découvert une fois que ce repeint sera retiré, c'est-à-dire une très belle architecture avec des fenêtres grillagées, des colonnes, qui est probablement autant aussi raffinée que le tableau lui-même, autant dans son coloris que dans son exécution. Donc une fois que ce tableau va retrouver son fond d'architecture, ça va être quelque chose d'absolument extraordinaire.
Dans quelles circonstances ce tableau s'est-il retrouvé dans cette famille de Dijon ? Alors, on sait que la ville de Dijon est liée, pour le coup, historiquement au pays tchèque. Est-ce que ça a un rapport ou alors pas du tout ?
Écoutez, on peut se demander. Le problème, c'est que ce tableau, comme bien souvent ces tableaux qui sont découverts en France, n'ont plus d'histoire. On a tout perdu de ce lien qui est lié à travers l'histoire. On ne sait pas à l'origine déjà qui a commandé ce tableau, à qui il a appartenu, et on ne sait pas comment ce tableau est arrivé dans cette famille qui le détenait probablement depuis la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle, pardon, peut-être même de façon plus ancienne. L'état du tableau nous dit quelque chose de sa provenance. C'est un tableau qui a probablement été peu échangé, peu vendu, peu exposé, peu montré. Il a peu changé de main, ce tableau.
Comment, justement, arrive-t-on, dans le cadre d'une expertise, à déterminer, justement, l'origine ou la main, la patte du peintre ?
Ben ça arrive de deux façons. Soit ça arrive de façon intuitive, immédiatement, puisqu'on a quelques milliers d'artistes dans notre tête qu'on arrive à identifier rapidement. Et puis d'autres, comme c'était le cas ici, qu'on n'identifie pas immédiatement, puisque c'est pas compliqué de comprendre que ce sont des artistes qui sont tellement rares qu'on n'en a jamais eu dans les mains. Donc cet artiste-là, quand il est arrivé au bureau, on a compris que c'était quelque chose de très important, de très tôt d'époque, d'extraordinairement raffiné et merveilleux, mais il nous a fallu quelques jours, et puis après quelques semaines, pour sécuriser cette attribution.
Alors justement, puisque vous parlez du raffinement de ce tableau, quelles sont un peu les caractéristiques de la peinture du maître de Vichy Brotte? On remarque justement une très grande finesse dans le traitement de personnages, donc la Vierge et son enfant, une vraie grâce aussi des gestes qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les tableaux de cette époque-là.
Non, exactement. Donc c'est pour ça que non seulement l'artiste lui-même est un artiste dans lequel il y a un sentiment religieux qui est très important. Et dans notre tableau, ce qui est important, c'est qu'on sent que c'est un des tableaux probablement les plus importants de l'artiste, probablement une commande très importante. Quand vous regardez la façon dont l'or est travaillé, dans l'enduit qui va recevoir l'or est travaillé, dans certaines parties qui sont travaillées avec un or à la miction, qui est plutôt un or qui n'est pas à la feuille, mais qui est un or comme à la peinture, de la poudre d'or déliée. Il y a une volonté d'utiliser toutes les techniques les plus raffinées de l'époque. Donc le maître de Vichy Brotte, il est probablement dans ce tableau-là, qui est probablement un de ses plus beaux tableaux, il est reconnaissable pour cette technique extraordinaire, mais aussi pour ce sentiment religieux. Vous avez parlé de la grâce. Oui, il y a une grâce extraordinaire dans ce tableau. Cette façon dont la Vierge regarde l'enfant, cette façon dont l'enfant, avec sa candeur, s'accroche avec le pouce de sa mère et tient en même temps à ce geste que font tous les bébés. C'est-à-dire qu'ils attrapent, la première chose qu'ils arrivent à attraper, c'est leurs pieds. C'est à la fois absolument merveilleux et c'est extrêmement touchant.
Ce tableau a été estimé à l'origine entre 400 et 600 000 euros. Il a été finalement vendu à 5 millions d'euros. Est-ce que vous avez été surpris du résultat de la vente?
Surpris, non, parce que tous ces tableaux-là, il se trouve que quand on n'en a jamais, c'est très difficile de trouver, de donner un prix. Il se trouve qu'on a donné ce prix-là, sachant qu'évidemment, il serait probablement pulvérisé. Mais non, le tableau a été vendu, je pense, à son prix.
Justement, vous le rappeliez tout à l'heure, il a été acquis par le Metropolitan Museum of Art de New York. Est-ce que vous trouvez, alors, d'une part, dommage qu'il quitte le territoire français, ou même que, par exemple, une institution comme la Galerie nationale de Prague n'ait pas pu en faire l'acquisition? Il y avait une porte-parole du ministère de la Culture tchèque qui disait que le tableau avait été vendu bien au-delà de sa valeur. Est-ce que ces tableaux devraient rester alors là où ils ont été découverts, ou alors là dont ils étaient originaires?
Si vous voulez, non, évidemment, quand on découvre un tableau comme ça dans des régions françaises, il est assez rare que le musée local, en l'occurrence, même si Dijon est une très belle ville, une ville importante et qui a été une ville historique, même pour l'histoire de l'art, ces villes-là ne peuvent pas retenir un tel chef-d'œuvre. Donc souvent, eh bien, ce sont les grands musées qui rivalisent entre eux, avec les collectionneurs au milieu, et puis c'est le plus fort qui emporte. C'est vrai que ce qui m'a attristé un petit peu, c'est que j'avais senti, et on avait été vraiment en contact avec les gens de la National Gallery de Prague, qui ont adoré ce tableau, qui en ont véritablement fait un combat, en disant ce tableau doit revenir à Prague, et je crois qu'ils ont tout fait pour que ce tableau revienne. Et puis malheureusement, le métropolitain a été plus fort. On avait dit à la National Gallery de Prague, si vous voulez ce tableau, il faut vous battre jusqu'au bout, donnez-vous un crédit illimité. Bien sûr que ce n'est pas forcément faisable, ce n'est pas entendable nécessairement, mais on avait dit que ce tableau va faire au moins 3 à 4 millions. Donc si vous le voulez, allez-y, battez-vous.
Peut-être une question plus personnelle pour terminer. Je n'ai pas forcément connaissance de toutes les choses que votre cabinet a expertisées, mais j'imagine que dans une vie d'expert, il y a des moments importants d'expertise. Est-ce que ce tableau, pour vous, est un des grands moments de votre travail, peut-être de votre métier?
C'est non seulement un des grands moments, mais c'est probablement la plus grande année qu'on ait jamais faite en 30 ans. Cette année, nous avons vendu un tableau de Caravage, un tableau de Cimabue, qui est une chose absolument introuvable, et ce tableau du maître de Vichy Brotte, qui là aussi est un ovni qui nous est tombé sur, qui nous est tombé dans les mains. Donc c'est un rêve, tout ça, on a une année absolument extraordinaire.
Voilà, c'était Stéphane Pinta du groupe, du cabinet pardon, d'experts en art turquin à Dijon. Stéphane Pinta qui répondait aux questions d'Anna Kubishta. Et c'est avec lui que s'achève pour ce mardi le programme préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci encore de votre attention. Merci également de votre fidélité. Et à très bientôt, de nouveau à l'écoute de nos programmes. Ahoy.